une revue de presse internationale des médias alternatifs sur le web.
Ben oui, Extract, et comment ne pas parler, comment ne pas avoir comme premier sujet la journée sans achat 2003 pour une 12e année consécutive. Sur l'initiative de la Media Foundation et du journal Adbusters, on célèbre aujourd'hui, 28 novembre, la journée sans achat 2003, ou Buy Nothing Day. Cette journée se tient donc le 28 novembre, c'est-à-dire le lendemain, en tout cas en Amérique du Nord. Pour les Nord-Américains, c'est au lendemain de la journée de l'Action de grâce, ou la Thanksgiving aux États-Unis. Et c'est traditionnellement ça, la journée la plus occupée de l'année pour les magasins américains. Et organisé de manière anarchique au sein des réseaux progressistes, le Buy Nothing Day, ou soi-disant progressiste, je mets les guillemets, le Buy Nothing Day est la journée internationale de l'anticonsumérisme célébrée par tous ceux qui rêvent d'un monde où, en fait, la consommation est un peu plus réfléchie. Et, en fait, en plus de manifester en achetant rien, les participants et participantes à la journée sans achat sont appelés à conscientiser leur entourage et la population en général aux conséquences de notre surconsommation. Et on note évidemment la dégradation de l'environnement, l'exploitation ouvrière, la répartition inégale des richesses et la continuation des dynamiques d'oppression et de domination. Pour participer à la journée sans achat, rien de plus simple, ce qui est proposé, c'est que au moins une fois par année, le 28 novembre, incidemment cette année, on vous invite à ne pas sortir votre portefeuille, à ne pas payer vos factures par Internet, à déchirer votre carte de crédit et en fait, à s'engager dans toute action pertinente que les gens considèrent comme pertinente pour manifester la désapprobation de notre régime de consommation un peu effréné. Et si vous ne réussissez pas, en fait, pour une raison ou une autre, à ne rien dépenser cette journée-là, ben reprenez-vous un autre jour. En fait, une journée sans achat, peu importe quand elle se fait, c'est une pause pour se conscientiser face au gaspillage qui est engendré par notre mode de consommation et un temps pour réfléchir à de nouvelles alternatives comme, entre autres, le commerce équitable, les coopératives d'achat, les échanges de services, donc les systèmes d'échanges locaux, etc. Évidemment, tout ça a une portée très symbolique, mais c'est quand même important de se recentrer, de se concentrer sur les raisons pour lesquelles on doit s'opposer à une forme complètement irréfléchie de surconsommation. Alors, on vous invite évidemment à le faire pour la justice économique, à le faire pour l'environnement. Faut pas oublier que notre surconsommation est la cause principale des problèmes environnementaux actuels de la planète et à ceux à venir, évidemment, ceux dont on n'est pas encore tout à fait au courant. Et on vous invite aussi à le faire pour des raisons psychologiques. Il y a trop de personnes qui s'endettent, en fait, pour maintenir leur niveau de consommation et qui s'entraînent de plus en plus dans des situations budgétaires qui créent de plus en plus d'angoisse, de dépression, de suicide, etc. Alors, le mot d'ordre, c'est consommer moins, vivez plus, dépenser moins, penser plus. Et donc, c'est des millions de non-acheteurs qui, encore cette année, vont célébrer dans plus d'une trentaine de pays. En fait, Adbuster évalue à plus de 50 pays, à environ autour de 55 pays, où les gens, les non-consommateurs vont célébrer la journée sans achat. Ici à Montréal, le programme s'annonce bien garni pour ceux qui voudraient participer davantage juste en s'abstenant d'acheter. Dans la catégorie activité pour tout et tout pour tous les goûts, notons entre autres que le café, la Petite Gaule recevait hier en fait l'auteur Serge Mongeau, grand prêtre de la simplicité volontaire. Il y a la coop de la Maison Verte qui organise de son côté des ateliers et de la discussion dans les locaux de son commerce qui pour l'occasion s'abstient ironiquement de vendre quelques produits que ce soit. Quant aux activités un petit peu plus frisées, où on s'attend à ce qu'il y ait du sport, d'abord il y a une masse critique de cyclistes qui va se mettre en branle depuis le carré Philips tout à l'heure à 17h30. Alors c'est un rendez-vous carré Philips pour les cyclistes, les cyclo-révolutionnaires, pour gagner ensuite les rues du centre-ville et tenter par tous les moyens d'en perturber le trafic automobile. Il y a ensuite de nombreuses actions créatives présentement en préparation, mais présentement en cours possiblement, dans le secret ou la transparence, comme notamment celle des Optative Theatrical Laboratories, qui avait court-circuité l'an dernier un restaurant McDonald's au moyen de leur théâtre subversif. Et il y a enfin un collectif qui s'appelle le collectif Connection qui organise parallèlement la journée du 28 novembre une semaine sans vêtements du 23 au 29 novembre. Alors, ça vous tente de manifester contre le capitalisme, ce, dans votre habit d'Ève ou d'Adam, eh bien, c'est l'activité pour vous, semaine sans vêtements. Et bon, évidemment, celle-ci de consommer peut être ardue quand la machine publicitaire de son côté refuse de ralentir son rythme infernal. Alors, il n'y a rien d'étonnant à ce qu'il y ait une scène de commando anti-pub qui soit de plus en plus présente, qui est émergée depuis un peu plus qu'un an dans les villes, entre autres comme Montréal et à Paris, où c'est très fort. Frédéric, tout à l'heure, dans ses nouvelles d'Europe, va nous parler de la mobilisation anti-pub à Paris. L'anticonsommation ne carrefoure évidemment pas seulement aux actions directes et c'est s'alimenter aussi des réflexions solides qui sont orientées vers des sujets comme la dérive totalitaire de la pub et la nécessaire décroissance économique. Alors, pour plus d'informations sur la journée sans achat, vous pouvez visiter le site officiel du Buy Nothing Day d'Adbusters qui est au http://adbusters.org/campaigns, donc campagne en anglais au pluriel, /BND pour Buy Nothing Day. On vous invite aussi à visiter le Centre des médias alternatifs du Québec, le CEMAC.net, où on retrouve un bon dossier sur la journée sans achat et des informations supplémentaires. Aussi, je voudrais pas passer sous silence les initiatives qui sont un peu plus radicales, qui considèrent par exemple que Adbusters et l'Intelligentsia des gens qui ont mis sur pied ce Buy Nothing Day, en fait, ne s'attaquent pas nécessairement aux racines du problème. Il y a une bande de néo-situationnistes, ici même à Montréal, qui se réclament d'une action parallèle, donc le Steal Something Day, et on invite en fait les gens à réfléchir un peu plus profondément sur nos actions de consommation. Et en fait, on nous dit que voler est la redistribution de la richesse depuis les riches jusqu'aux pauvres. Et donc finalement, le vol, c'est de redistribuer les profits de façon un peu plus équitable. Alors, le Steal Something Day, c'est tous les jours, pas comme le Buy Nothing Day qui arrive tous les jours si on s'en donne la peine. Donc, mais qui en fait qui est planifié pour une seule journée. Alors voilà, on vous invite à voler quelque chose aujourd'hui si ça vous chante. We'll be right back.
là? Extract.
Qu'est-ce qu'on écoute là?
Extract.
Qu'est-ce qu'on écoute là?
Extract.
Alors, on poursuit Extract avec les nouvelles de l'Europe avec, comme d'habitude, Fred qui se concentre sur les sites alternatifs, mais plutôt européens.
Oui, en fait, Portugal Indymedia nous rapporte qu'il y a un an après le déversement de pétrole ou d'huile sur le large des côtes de Galicie, il y a une grande manifestation qui a mobilisé plus de 100 000 personnes qui ont dit « Nunca mais », plus jamais, « Never again » à ce type de déversement-là qui crée, bien entendu, des conséquences économiques, sociales, mais aussi environnementales et pour la santé énormes. Ils ont même créé à partir du déversement, c'est-à-dire il y a un an, une plateforme qui s'appelle plataformanuncamais.org. Et on peut donc l'accéder sur Internet, et c'est une plateforme qui dénonce en fait ce qui s'est passé il y a un an. Ça a été créé le 21 novembre, cette plateforme-là, et on parle surtout de questions environnementales.
Mais qu'est-ce qu'on veut dire par plateforme?
Ben, c'est une plateforme, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on propose au gouvernement, okay. C'est quelque chose qui est comme un outil de lobbying.
Un ensemble de réformes.
De réformes, c'est ouais. Ça. Et c'est surtout pour mobiliser les différents acteurs là, de la société civile, c'est-à-dire que ça rassemble plus de 200 associations, cette plateforme-là. Et une des revendications, c'est de réclamer la démission des autorités qui étaient responsables là, de ce déversement-là. Et dans tout le pays, en fait, en Espagne et au Portugal, en fait, les deux pays, on dénote quelque chose comme 300 000 personnes qui ont manifesté, donc un an après le déversement du Prestige. Si on passe maintenant à Athènes Indymedia, c'est-à-dire en Grèce, on apprend cette semaine la libération des 7 personnes qui étaient incarcérées depuis la tenue du sommet de l'Union européenne qui avait eu lieu au mois de juin de cette année. Et en fait, il y avait 7 personnes qui étaient encore détenues et qui faisaient la grève de la faim. On parle de Grecs, on parle aussi de 4 personnes qui étaient de l'extérieur de la Grèce. Donc, le 26 novembre à 16h, heure locale, le Conseil des délinquances, qu'on l'appelle à Thessaloniki, dans la deuxième plus grande ville de Grèce, a décidé en fait de libérer ces prisonniers-là. C'est une décision qui est donnée par ce conseil spécial-là, qui est un conseil constitué de 3 juges qui décident à partir de pétitions qui leur sont remises par la population. Et ils ont donc accordé en fait la libération, mais il y a certaines conditions qui s'appliquent, et notamment que les non-Grecs et les Grecs restent en Grèce pendant la durée des négociations encore pour leur libération. Mais de fait, en fait, il y a déjà une libération d'assurés, sauf que maintenant, on essaie de négocier un peu sur quelle base, et s'il va y avoir des dossiers, d'autres plaintes portées contre ces prisonniers-là. Aussi, dans le même article, en fait, sur Athènes Indymedia, ce qui est intéressant, c'est qu'on nous montre la photo de Simon Chapman, qui, lui, était un des 7 incarcérés d'origine britannique. Et ce gars-là, en fait, on le voit dans une photo où les policiers lui mettent clairement un sac à dos à ses pieds, et c'est un sac à dos qui est rempli de marteaux et de bombes, de petits explosifs.
En fait, la photo est dans une série. On voit que la première photo de la série a son pack-sac sur le dos.
Exactement.
Et la troisième, on voit son pack-sac qui est dans le background, puis il y a une police qui est en train d'implanter un nouveau pack-sac.
C'est ça. Et puis, donc, on voit clairement un acte, là, très, très délibéré de la part de la police.
En plus du coup de pied d'en face.
Oui, c'est ça. En plus, en plus de la brutalité policière qui a été exercée. Et puis aussi, en fait, ce qui est drôle dans ce cas-là des 7 prisonniers de Thessaloniki, c'est qu'il y a un homme de loi, là, on précise pas dans l'article qui exactement a émis ça, mais a émis un ordre de nutrition, c'est-à-dire de nourrir les prisonniers qui faisaient la grève de la faim. Et là, ça a vraiment fait un gros chiard dans la population, et même que le parti au pouvoir, certains membres du parti au pouvoir, le PASOK, sont sortis en grande puis ont dénoncé là, le fait que le gouvernement ne traite pas mieux, ne fasse pas plus dans ce dossier-là. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de très... une patate chaude là qui sort en Europe. C'est vraiment médiatisé partout en Europe. Et maintenant, il y a déjà plusieurs semaines que les médias alternatifs surtout Indymedia fait un cas de ça, mais les médias de masse sont en train de, eux aussi, faire des reportages.
Il faut dire qu'au cours des derniers jours, on craignait carrément pour la vie des grévistes de la faim, non plus seulement pour leur santé, mais on s'attendait à ce qu'il y en ait, un qui débarque bientôt, là, donc ça arrive à point.
Exactement. Ouais. Donc ça c'est pour Athènes, Indymedia. Maintenant, si on passe à l'Allemagne, le site d'Indymedia en Allemagne nous rapporte une atteinte à la liberté de presse assez grave à Hambourg, dans cette ville du nord de l'Allemagne, où en fait, juste pour rappeler les événements, il y a eu une grande manifestation contre le démembrement ou la relocalisation d'un campement, un peu comme Tent City à Toronto. Mm-hmm. Il y a eu la même chose qui s'est passée à Hambourg, et ça se passait le 18 octobre. Le 20, le 21 octobre, il y a des animateurs d'une radio libre, on les appelle des radios libres, c'est comme une radio communautaire là-bas, qui appellent la police et qui essaient d'avoir des détails par rapport aux gens qui ont été incarcérés par rapport à ce cas-là. Et là... On apprend cette semaine, c'est-à-dire le 25 novembre, que la police est débarquée le 25 dans la journée et est débarquée dans cette radio-là et a commencé à faire une fouille vraiment monumentale, là, c'est-à-dire 30 Robocops, 30 policiers en habits anti-émeute sont rentrés dans les studios, ont carrément commencé à fouiller tous les documents pour ressortir finalement avec deux documents sous le bras et certaines cassettes, certains enregistrements. Et en fait, ce que la station de radio dit dans son communiqué de presse en réponse à tout ça, c'est que c'est extrêmement déplorable, en fait, que ça n'ait pas suivi son cours normal. Normalement, si la police veut avoir des enregistrements, ou elle doit passer par une agence qui est un peu l'équivalent du CRTC, là, mm-hmm. Mais au plan local, là-bas, à Hambourg. Et ils ont complètement passé outre ça. Puis c'est 30 anti-émeutes qui sont présentés là du jour au lendemain, sans mandat, sans rien. Mm-hmm. Ils sont vraiment rentrés. Et ils ont même empêché, en fait, que la station de radio, pendant cette fouille-là, fasse...
Diffuse.
Mmh. Des informations par rapport à la fouille.
Ouais.
Donc là, on se trouvait dans la situation très cocasse où il y avait une policière qui était assise en avant de l'animateur et qui vérifiait pour savoir s'il parlait pas de la fouille du tout.
Ouais, très cocasse, en effet.
Ouais, même à ça, il y a quand même eu 400 manifestants qui se sont pointés, donc surtout des gens qui écoutent la radio et qui ont ils ont décidé de faire une manifestation ad hoc comme ça. Donc là, on voit que même dans nos démocraties libérales, il y a des atteintes à la liberté de presse assez fondamentales.
Puis, qu'est-ce qui se passe du côté de Paris?
À Paris, maintenant, en fait, le site Indymedia de Paris s'est transformé en plateforme de mobilisation, puisqu'aujourd'hui, en fait...
Encore une plateforme?
Oui, encore une plateforme.
C'est le mot de la journée.
Oui. En fait, le 28 novembre, c'est ça, pendant la journée sans achat, c'est des actions anti-pub qui se déroulent à Paris, un petit peu sur le modèle de ce qui s'était passé le 17 octobre et le 7 novembre. Deux actions qui ont duré une journée et qui ont vraiment été menées avec beaucoup de succès. Si bien que la compagnie Metrobus, qui est celle qui possède le plus de panneaux publicitaires à Paris, s'en prend en fait à l'hébergeur Où va-t-on. C'est une coopérative ça qui héberge le site du collectif Stop Pub, qui lui coordonne en fait ces actions-là. Et en fait, toute la journée, si vous voulez suivre les événements, ça commence à 7h, heure de Paris. Ça dure jusqu'à minuit. Et c'est des actions qui vont se passer à 8 différents endroits dans la ville. Et juste pour vous donner un peu de contexte par rapport à l'affaire Metrobus Où va-t-on, c'est les arguments de Metrobus, représentés par deux avocats, et que cette compagnie-là a subi un préjudice, donc une cause légitime, du fait de la diffusion sur un site hébergé par Où va-t-on d'une incitation à la dégradation. Donc, Metrobus exigeait aussi que Où va-t-on lui communique immédiatement les coordonnées des créateurs de Stopbus. Et l'argument de l'autre côté d'Où va-t-on, c'est on ne peut plus simple, c'est-à-dire que Metrobus n'a pas de grief contre eux, car ils ne sont pas responsables des contenus diffusés sur les sites hébergés.
Mm-hmm.
Donc ça vient vraiment toucher là à une loi existante là, qui s'appelle la loi sur l'économie numérique, LEN en France. Et là, si cette loi-là est changée avec ce cas-là, Metrobus Où va-t-on, ça viendrait en fait... le jugement va tomber le 1er décembre, on va le savoir bientôt, mais les gens du du portail, là, de, c'est-à-dire les gens d'où va-t-on sont passibles d'une amende de 300 000 euros et de quelque chose comme 5 ans de prison. Et ça créerait un précédent, notamment à savoir que les hébergeurs sont désormais responsables du contenu des sites qu'ils hébergent. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux pour pour tous ceux qui veulent avoir un espace de liberté sur Internet. Donc, c'est un petit peu ça le contexte à mettre derrière tout ça. Mais, comme je le disais, toute la journée, il va y avoir des actions anti-pub, donc beaucoup de brouillage culturel en vue aujourd'hui à Paris.
Ben, merde à où va-t-on, puis merde aux anti-pub. Puis merci, Fred.
Merci.
Vous écoutez Extract. Vous portez attention avec nous aux informations alternatives que l'on peut dénicher un peu partout sur le web. Et on finit cette émission en fait avec des brèves tirées du réseau Indymedia. Cette semaine, en Géorgie, dans l'État de Géorgie, à Fort Benning aux États-Unis, au moins 6 000 personnes se sont rassemblées devant les portes du Western Hemisphere Institute for Security and Cooperation, qu'on connaissait précédemment sous le nom de École des Amériques. Donc, cette semaine, toutes ces personnes sont rendues en Géorgie pour demander expressément la fermeture de l'École des Amériques et pour porter attention sur les atrocités qui ont été commises au cours des 20-30 dernières années par les gradués, par les personnes qui sont passées par l'École des Amériques, qui est en fait une institution, il ne faut pas l'oublier, une institution de l'armée américaine. Et en fait, bon, on rappelle que certains des dictateurs les plus sanguinaires des dernières années sont passés par l'École des Amériques. Alors, c'est une bataille de longue haleine contre l'École des Amériques qui est menée par des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes à travers tout le continent américain pour voir la fermeture de cette école-là. En Argentine, la répression des mouvements de chômeurs continue de s'intensifier. Cette semaine, ce sont les travailleurs desocupados du quartier de San Lorenzo, dans la capitale de Neuquén, qui ont été pris pour cible par les autorités politiques et policières. Dernière nouvelle, à l'issue de ces violentes répressions policières, il y a plus de 19 personnes qui ont été rapportées blessées seulement cette semaine, dont certaines grièvement. Et on rapporte aussi l'utilisation abusive de tirs d'impact aux balles de plomb directement dans la foule. Et donc, il y a au moins 5 personnes qui ont été rapportées grièvement blessées à cause des impacts de ces balles de plomb-là. En Bolivie, un groupe de 30 personnes, entre autres des dirigeants de la coordination des parents des martyrs pour la défense du gaz, des gens qui ont été affectés directement par les soulèvements récents du mois d'octobre en Bolivie pour la défense du gaz et la nationalisation, l'exploitation du gaz en Bolivie. Donc, cette semaine, mardi, sont entrés en grève de la faim pour protester contre le manque d'attention que le gouvernement porte à une pétition qui a été présentée le 7 novembre dernier. Et l'Assemblée des personnes qui sont donc affectées par la guerre du gaz ont déterminé que le gouvernement n'a pas rempli ses engagements dans une période de 48 heures qui était accordée par la coordination. Ils se doivent donc, selon l'analyse, d'adopter des moyens de pression, dont cette grève de la faim-là. Les moyens de la force, en fait, ont été adoptés parce que le gouvernement n'a pas encore commencé à payer les redevances ou, en fait, l'argent qui était promis aux familles qui ont été affectées par la guerre du gaz. Et ce qui fait que, dans cette semaine, ben, il y a eu un backlash, un retour de la population, des gens qui ont vu leur famille, des membres de leur famille être blessés, ou encore, il y a des gens, évidemment, il y a plusieurs dizaines de personnes qui ont été tuées dans les affrontements au cours de la guerre du gaz. Et le manque d'action, le manque d'attention aussi du gouvernement provoque de plus en plus de situations où les citoyens se révoltent contre un mauvais gouvernement. Et un peu dans la même optique, on rappelle que la semaine dernière, il y a plusieurs dizaines, voire plus qu'une centaine de personnes qui ont été arrêtées. En tout cas, il y a 75 personnes qui ont été arrêtées et détenues pendant plusieurs journées dans le cadre des manifestations contre la zone de libre-échange des Amériques qui s'est tenue à Miami la semaine dernière. Et on rappelle, on a eu plusieurs informations à l'effet qu'il y a eu de la torture, il y a eu toutes sortes de mauvais traitements qui ont été réservés, et il y a même des cas de viol, en fait, de manifestants. Il y a eu toutes sortes de discriminations, et effectivement, il y a des manifestants qui ont été isolés et qui ont été pris à partie, qui ont été violés apparemment dans les prisons de Miami sous l'œil bienveillant des autorités policières. Alors, on suit ça. Je vous invite encore une fois à consulter le réseau Indymedia et le site. En ce qui concerne la mobilisation contre la zone de libre-échange des Amériques, si vous parlez, comprenez bien l'anglais, je vous invite à visiter le FTAA IMC. En tout cas, vous pouvez commencer par aller sur le réseau Indymedia au www.indymedia.org, ou vous pouvez aussi passer par la Tribune québécoise, qui est le Centre des médias alternatifs du Québec. Et bon, il y a plein d'informations que vous allez trouver là, et notamment sur la zone de libre-échange des Amériques. Alors, c'est tout pour l'émission d'Extract cette semaine, et je vous rappelle que l'actualité au grand complet n'est autre qu'un gros grumeau.
une revue de presse internationale des médias alternatifs sur le web.